Le bouddhisme est-il une religion? Il peut sembler étrange de se demander si le bouddhisme est ou non une religion. Après tout, si vous consultez une liste des principales religions dans le monde, vous verrez que le bouddhisme y figure en bonne place à côté du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme, du judaïsme, par exemple. Pourtant, cette question revient systématiquement lorsqu'on parle du bouddhisme. Alors pourquoi? Demandez à la plupart des gens ce qu'ils associent spontanément au mot « religion » et ils vous parleront probablement de quelque chose concernant la foi en Dieu et d'un Dieu créateur de l'univers. N'oubliez pas, si cette conception était la seule définition de ce qu'est une religion, il faudrait exclure le bouddhisme car, selon le bouddhisme, il n'existe pas de Dieu à adorer. L'adoration d'une puissance surnaturelle n'est pas la préoccupation centrale du bouddhisme. Dieu, dans le sens qu'on attribue en général à ce mot, est complètement absent de l'enseignement bouddhiste, à tel point que certains disent, en ne plaisantant qu'à moitié, du bouddhisme que c'est une bonne religion pour les athées. Le bouddhisme n'est pas avant tout un système de croyances. Bien qu'il pose certains principes fondamentaux, dont nous parlerons au chapitre 3, la plupart des maîtres bouddhistes encouragent activement leurs disciples à adopter une attitude qui est l'opposé de la croyance ou de la foi aveugle. Les maîtres bouddhistes vous conseilleront toujours d'être sceptiques quant aux enseignements que vous recevez, même s'ils provenaient directement du Bouddha lui-même. Pour en savoir davantage sur le fondateur du bouddhisme, écoutez le chapitre 3. N'acceptez pas passivement ce que vous avez lu ou entendu, mais ne le rejetez pas automatiquement non plus. Servez-vous de votre cervelle. Voyez si les enseignements ont un sens à la lumière de votre expérience personnelle et de celle d'autres personnes. Puis, comme le Dalai Lama, écoutez le chapitre 15, le recommande souvent, si vous trouvez que les enseignements vous conviennent, appliquez-les dans votre vie autant que vous le pouvez. S'ils ne vous conviennent pas, laissez-les. Parole de sage. Cette approche non dogmatique, c'est-à-dire sans système rigide de doctrine ou de croyance, est en accord avec l'esprit comme avec la lettre de l'enseignement même du Bouddha. Dans l'un de ses discours, ou sermons, les plus célèbres, le Bouddha a déclaré « N'acceptez rien que je dise comme étant vrai simplement parce que c'est moi qui l'ai dit. Au contraire, testez cet enseignement comme si vous étiez un orfèvre testant la qualité de son or. Si, après avoir examiné mes préceptes, vous trouvez qu'ils sont vrais, alors mettez-les en pratique. Mais ne les mettez pas en pratique simplement par respect pour moi. » Le bouddhisme vous encourage donc à vous servir de la gamme complète de vos facultés mentales, émotionnelles et spirituelles et de votre intelligence au lieu de simplement placer aveuglément votre foi dans ce que des autorités du passé ont dit. Cette attitude rend le bouddhisme particulièrement intéressant aux yeux de nombreux occidentaux. Bien qu'il existe depuis quelque 2500 ans, il plaît à l'esprit postmoderne de scepticisme et d'investigation scientifique. N'oubliez pas. Puisque le bouddhisme n'est pas avant tout un système de croyances et n'est pas non plus centré sur l'adoration d'une divinité suprême, alors pourquoi le classifie-t-on comme religion? Il donne aux gens qui le pratiquent un moyen de trouver des réponses à des grandes questions de la vie comme « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Quel est le sens de la vie ? Pourquoi souffrons-nous ? Comment puis-je réaliser un bonheur durable ?» Outre l'enseignement fondamental sur la nature de la réalité, le bouddhisme propose une méthodologie, c'est-à-dire un ensemble de techniques et de pratiques qui permettent à chacun de ses adeptes de faire directement pour soi l'expérience d'un niveau plus profond de réalité. En termes bouddhiques, lorsque vous vivez cette expérience, vous vous éveillez à la vérité de votre propre être authentique, à votre nature la plus intime. L'expérience de l'éveil spirituel est le but de tout l'enseignement du Bouddha. Pour en apprendre davantage sur l'éveil ou illumination, Écoutez le chapitre 10. Certaines écoles soulignent davantage l'importance de l'éveil que d'autres, qui peuvent même le reléguer à l'arrière-plan dans leur liste de priorités. Mais dans chaque tradition, c'est l'objectif de l'existence humaine qu'on le réalise dans la présente vie ou dans une des vies à venir. À propos, il n'est pas nécessaire que vous deveniez membre d'une organisation bouddhiste pour bénéficier des préceptes et des pratiques du bouddhisme. Pour en savoir davantage sur les différents niveaux d'implication dans le bouddhisme, rendez-vous au chapitre 6.
Le Bouddha, homme ou Dieu? Ceux qui sont encore peu familiers du bouddhisme posent souvent la question suivante. Le Bouddha Shakyamuni, c'était un homme, un dieu ou encore un type d'être différent? Le Bouddha lui-même a déclaré que, comme tout autre être éveillé ayant existé dans le passé ou qui existerait après lui, il avait été auparavant un être humain ordinaire, non éveillé, avec les mêmes complexes et les mêmes problèmes que n'importe qui d'autre. Personne n'a jamais commencé sa vie en tant que Bouddha. Personne n'a jamais été éveillé dès le départ. Et Shakyamuni ne fit pas exception à cette règle. Ce n'est que par un effort considérable exercé sur une longue période, en fait sur plusieurs vies, qu'il réussit à éliminer toutes les couches qui recouvraient la nature claire de sa conscience en atteignant ainsi l'éveil complet, ou état de Bouddha. Là où les différentes traditions bouddhiques diffèrent, c'est sur la question de savoir à quel moment Shakyamuni a véritablement atteint l'éveil. Certaines traditions affirment qu'il a accompli cet exploit exactement comme nous le racontons ici, à l'âge de 35 ans, alors qu'il était assis sous l'arbre Bodhi, ou Bo, il y a environ 2500 ans. D'autres maintiennent qu'il parvint à l'éveil bien avant cette date, dans un passé très éloigné. Selon cette seconde interprétation, le Bouddha, qui fut connu sous le nom de Shakyamuni, avait atteint l'éveil bien avant de renaître en la personne du prince Siddhartha. Son existence tout entière sur cette terre, de sa naissance à sa mort, fut une démonstration consciente aux autres de la manière dont il faudrait suivre le chemin spirituel. Autrement dit, ce fut un numéro exécuté à la seule fin d'inspirer d'autres personnes à se développer elles-mêmes sur le plan spirituel, de la manière dont il l'avait fait lui-même auparavant. Quoi qu'il en soit, le fait que les adeptes sincères du bouddhisme puissent suivre l'exemple du Bouddha en fonction des possibilités qui sont les leurs importe davantage que la question de la date de l'adoption de l'éveil par le Bouddha. Si vous étiez un adepte en herbe, vous vous demanderiez peut-être « Si Shakyamuni n'était au départ pas différent de moi, comment puis-je moi-même suivre ses pas et obtenir la satisfaction et la réalisation qu'il a trouvée ?»
Réalisez bien le rôle que joue le Bouddha, l'éveillé. La religion bouddhique repose sur l'enseignement donné il y a plus de 2500 ans par l'une des plus grandes figures spirituelles de l'histoire de l'humanité, le Bouddha Shakyamuni. Comme nous l'expliquons en détail au chapitre 3, il naquit dans la famille qui gouvernait le clan des Chakya, dans le nord de l'Inde, et devait un jour succéder à son père en tant que roi. Mais au lieu de cela, le prince Siddhartha, c'était comme cela qu'on l'appelait à l'époque, abandonna la vie princière à l'âge de 29 ans après avoir constaté la réalité de la grande souffrance et de la vaste insatisfaction du monde. Il entreprit alors de découvrir un moyen de surmonter cette souffrance. Finalement, à l'âge de 35 ans, le prince Siddhartha atteignit ce but. Assis sous l'arbre qui fut ensuite appelé l'arbre Bodhi ou arbre de la Bodhi, l'arbre de l'éveil, il obtint l'éveil complet, qu'on appelle aussi réalisation de l'état de Bouddha. Dès lors, on le nomma Bouddha Shakyamuni, ce qui signifie « le sage, Muni, complètement éveillé, Bouddha, du clan des Chakya ». Le Bouddha passa les 45 années du reste de sa vie à errer à travers le nord de l'Inde en enseignant le sentier qui mène à la libération de la souffrance dans l'éveil complet d'un Bouddha à tous ceux qui s'y intéressaient. la troisième partie du présent ouvrage propose une vue d'ensemble de ce sentier. Après avoir vécu une vie de service aux autres empreint de compassion, il mourut à l'âge de 80 ans. La communauté spirituelle bouddhiste, le Sangha, a veillé avec la plus grande attention à préserver et à transmettre son enseignement d'une génération à la suivante, de façon aussi pure que possible. Cet enseignement détaillé fut finalement écrit, ce qui généra une grande collection, le canon, de plus d'une centaine de volumes des discours propres du Bouddha, sutra, et le nombre de commentaires, shastra, de maîtres indiens ultérieurs. Écoutez les chapitres 4 et 5 pour en apprendre davantage sur la manière dont ces enseignements ont été diffusés et comment ils ont évolué. À travers les siècles, le Sangha a en outre érigé des monuments, les stupas, en l'honneur des événements majeurs de la vie de leur maître, ce qui a permis aux adeptes de faire des pèlerinages à destination de ces sites vénérés et de recevoir directement l'inspiration du Bouddha compatissant. Les chapitres 8 et 9 proposent davantage d'informations sur les pratiques dévotionnelles et les rituels bouddhiques. Grâce aux efforts de chaque génération de maîtres et de disciples, la lignée de l'enseignement du Bouddha, appelée Dharma, est restée fondamentalement intacte jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, après 2500 ans, le bouddhisme est toujours une tradition vivante, capable d'apporter la paix, le bonheur et la réalisation à quiconque la pratique sincèrement. N'oubliez pas. Comme le Bouddha était un simple mortel, et pas un dieu vivant ni un super-héros mythique, pour les bouddhistes, il est toujours davantage qu'un personnage éloigné. Écoutez le passage « Le Bouddha, homme ou Dieu » plus haut dans ce chapitre. Il représente un exemple vital de ce que chacun d'entre nous, tant que nous sommes, peut réussir si nous nous engageons sincèrement dans l'étude et la pratique du Dharma qu'il a enseigné. En fait, l'une des principales vérités auxquelles il accéda sous l'arbre Bodhi était que tous les êtres ont le potentiel de devenir des Bouddhas. Ou, comme le présentent certaines traditions, tous les êtres sont déjà des Bouddhas dans leur essence et il suffit simplement qu'ils prennent conscience de ce fait.